Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, déclaré président de transition par la Cour constitutionnelle la semaine passée après 2 coups d'État en 9 mois, devrait être formellement investi dans les prochains jours, a appris hier l'AFP auprès de sources proches de la Cour. La cérémonie devrait faire avancer, dit-on, la nomination d'un premier ministre réclamée par la communauté internationale qui demande qu'il s'agisse d'un civil. L'Union africaine a nommé hier l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise Ibrahim Fall au poste de haut représentant pour accompagner la transition au Tchad, où une junte militaire a pris le pouvoir le 20 avril après la mort du président Idriss Déby Itno. Le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, a déclaré hier prendre acte de l'annonce par le parti de Laurent Gbagbo du retour de l'ancien président à Abidjan le 17 juin. Nous y reviendrons avec Jean-Roger Bion en seconde partie de cette édition. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a appelé hier les responsables politiques congolais à s'engager dans la lutte contre les violences sexuelles et le martyre des populations qui durent depuis plus de 20 ans dans l'est de la République démocratique du Congo. Le docteur Mukwege s'exprimait pour la première fois devant l'Assemblée provinciale du Sud Kivu à Bukavu sur la question des violences sexuelles et l'utilisation du viol comme arme de guerre en RDC. Un véritable New Deal qui doit être lancé pour permettre à l'Afrique de surmonter la crise du Covid et d'éviter d'être distancée par les autres continents, demande une trentaine de dirigeants dans une tribune publiée hier par Le Monde. Cet appel a été initié par les présidents français Emmanuel Macron, sénégalais Macky Sall, rwandais Paul Kagame et sud-africain Cyril Ramaphosa. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, près de 820 millions d'euros de contrats liés à la lutte contre le Covid-19 font l'objet d'enquêtes pour corruption, y compris une affaire concernant 2 proches du ministre de la Santé, l'étoile montante de l'ANC au pouvoir, Zweli Mkhize. Ici à Washington, le président Joe Biden doit annoncer peut-être dès ce jeudi un plan pour distribuer aux pays qui en ont le plus besoin, en coordination avec COVAX, 80 millions de doses de vaccins contre le COVID-19, sans aucun a priori politique, a annoncé hier le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Le partage des vaccins avec les pays pauvres, ainsi que les moyens de mieux identifier les risques sanitaires liés aux animaux, ces sujets seront au centre des discussions aujourd'hui et demain des ministres de la Santé des grandes puissances du G7 réunis à Oxford à 1 semaine du sommet de leurs dirigeants en Angleterre. La pandémie de COVID-19 qui fait rage depuis 17 mois a plongé plus de 100 millions de travailleurs supplémentaires dans la pauvreté selon l'ONU, une situation liée à la chute des heures de travail et à l'évaporation d'emplois. Le chef de l'opposition israélienne Yair Lapid va devoir obtenir la confiance de la Knesset après avoir réussi son pari en arrachant in extremis un accord pour un gouvernement de coalition, espérant ainsi tourner dans les prochains jours la page sur plus d'une décennie de pouvoir du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Après le géant mondial de la viande JBS et début mai l'opérateur d'un immense oléoduc américain Colonial Pipeline, une compagnie de ferry du Massachusetts a indiqué hier avoir été à son tour la cible d'une cyberattaque qui a paralysé son système de réservation. JBS soupçonne des hackers russes et le président Biden n'écarte pas de possibles représailles contre la Russie. La NASA a annoncé hier qu'elle prévoyait de lancer 2 missions scientifiques sur Vénus entre 2028 et 2030, les premières missions de ce type depuis plusieurs décennies, afin d'étudier l'atmosphère et l'histoire géologique de la planète la plus proche de la Terre. Le Monde aujourd'hui, VOA, Afrique, Washington, D.C. La suite de nos informations. Au Sénégal, les autorités ont fait le ménage dans un établissement pénitentiaire de Dakar, d'où s'est échappé un surnommé l'As des évasions. Il est toujours activement recherché après 5 jours de cavale et a même accordé une interview à une télévision locale. Les détails avec Rosine Munezero.
Baïmoudou Fall, surnommé Boy Diné ou le Petit Génie, a déjà été arrêté plusieurs fois, mais s'est échappé autant de fois. Il est accusé d'avoir commis des délits graves et jeté en prison, mais il réussit souvent à passer entre les mailles du filet. Il était en détention dans une zone de haute sécurité de la prison de Grand Yoff, un quartier populaire de Dakar, mais a encore trouvé le moyen de sortir de sa cellule. Depuis sa nouvelle cachette, il a même accordé une interview exclusive à une télévision locale, ITV. J'ai toujours dit que la prison n'était pas sécurisée, mais les autorités pénitentiaires sont persuadées du contraire, a-t-il lancé depuis une nouvelle planque. Âgé de 32 ans environ, l'homme affirme qu'il agit toujours seul. Plusieurs fois arrêté pour vol à main armée ou association de malfaiteurs, il s'est déjà évadé une dizaine de fois de plusieurs. Sa dernière arrestation après une évasion remonte à 2016 à la frontière guinéenne et il était depuis tenu au secret à Dakar. Une enquête est en cours pour établir les circonstances de son évasion. En attendant, le directeur de la prison Baye Ali Konté a été relevé de ses fonctions et remplacé. Et tous les agents de service cette nuit-là ont été arrêtés.
Le gouvernement kényan fait appel d'une décision de justice bloquant une réforme sous l'égide du président Uhuru Kenyatta. L'audience d'appel est prévue le 29 juin. Le projet suscite la controverse.
L'instance représentant l'État devant les tribunaux estime que le tribunal de première instance s'est trompé en estimant que le président ne pouvait pas prendre l'initiative de ce type de révision. Le mois dernier, un tribunal kényan a jugé illégal ce projet de réforme qui vise à modifier la constitution via un référendum à seulement 1 an de l'élection présidentielle. Le projet propose de modifier la constitution de 2010 qui avait instauré un régime présidentiel. Il crée aussi un poste de premier ministre, 2 postes de premier ministre adjoint et un poste de chef de l'opposition. Cette modification permettrait d'atténuer le système actuel du vainqueur rafle tout auquel M. Kenyatta impute les conflits post-électoraux dans son pays. Cette initiative découle de l'alliance inattendue passée entre M. Kenyatta et son principal opposant dans les urnes, Raila Odinga, au lendemain de la présidentielle de 2017, émaillée de violence. Approuvé par le Parlement, le projet domine depuis lors la vie politique kényane, tandis que M. Kenyatta et Odinga ont parcouru le pays pour en faire la promotion malgré l'épidémie de COVID-19.
Au Maroc, la maman malienne de 25 ans et ses 9 bébés désormais âgés d'1 mois se portent bien, mais resteront sous observation pendant encore 2 mois, indique la clinique de Casablanca qui a géré cet accouchement exceptionnel. Le point avec Nathalie Barge.
Les non-nuplés ne sont plus sous assistance respiratoire. Ils sont nourris à la sonde et leur poids a évolué, a indiqué Abdelkoudous Afsi, responsable de communication de la clinique Aïn Bourja. Leur retour au Mali n'est pas encore d'actualité car les bébés ne pourront pas affronter la vie extérieure avant 1 mois et demi ou 2, a-t-il précisé. Halima Cissé, originaire de Tombouctou, a accouché le 4 mai de 5 filles et 4 garçons. Après avoir été transférée fin mars de Bamako à Casablanca pour un suivi plus adapté au risque de cette grossesse multiple, une équipe médicale de 10 médecins assistés de 25 employés paramédicaux s'étaient mobilisés pour l'accouchement par césarienne. Cette naissance multiple pourrait être confirmée comme un record mondial. Le record médicalement vérifié remonte à 2009, quand une Américaine de 33 ans avait donné naissance à 8 enfants.
La Minute Éco, Jean-Roger Dion.
Le Burundi a rouvert sa frontière avec la République démocratique du Congo. Le poste frontière de la ville de Gatumba a été fermé en mars 2020 pour freiner la propagation du coronavirus. Cette décision ainsi que toutes celles qui ont été prises dans le cadre de la prévention de la pandémie ont contribué au ralentissement de l'activité économique, notamment dans les secteurs du tourisme et du commerce. Le Kenya et le Burundi vont lever les barrières tarifaires pour stimuler leurs échanges commerciaux. Les chambres de commerce du Kenya et du Burundi ont signé, selon Ecofin, un accord qui va faciliter le transport par camion de marchandises telles que les produits pharmaceutiques, le pétrole, les produits agricoles à valeur ajoutée. La convention fait suite à la visite d'État de 2 jours du président burundais Evariste Ndayishimiye au Kenya. Les autorités égyptiennes ont sorti un nouvel appel d'offres aux compagnies de tabac pour la fabrication de cigarettes. 4 entreprises ont déposé des plaintes jugeant les conditions trop restrictive. La mesure pourrait mettre fin au monopole de la compagnie contrôlée par l'État, qui détient 70% des parts de marché. L'adjudicataire du nouvel appel d'offres devrait accepter de produire 1 milliard de cigarettes par an au lieu de 15 milliards par an. L'industrie de la cigarette en Égypte contribue chaque année à plus de 3,8 milliards de dollars au budget de l'État.
Merci Jean-Roger. Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La sélection féminine de handball d'Algérie ne participera pas à la 24e Coupe d'Afrique des Nations, la CAN de handball, prévue au Cameroun du 8 au 18 juin prochain. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de handball. Les Algériens disent ne pas être prêts parce qu'ils manquent de compétition. Depuis un certain temps, l'équipe d'Algérie était logée dans le groupe C avec le champion en titre angolais, le Cap-Vert et le Congo. Les formations qui atteindront les demi-finales de ce tournoi se qualifieront pour le mondial de handball qui aura lieu en Espagne du 2 au 19 décembre 2021. Ici en NBA, le verdict médical est tombé pour Joel Embiid. La star camerounaise de Philadelphie souffre d'une petite déchirure au niveau du ménisque du genou droit. L'annonce a été faite par les Sixers dans un communiqué. Le pivot camerounais en lice pour le gain du trophée de MVP, entendez meilleur joueur de la NBA, de la saison régulière s'est blessé lors du match numéro 4 contre Washington en playoff lundi, en chutant lourdement après avoir attaqué le cercle. Tennis, Serena Williams, ex numéro 1 mondial, aujourd'hui 8e, a eu besoin de 3-7, 6-3, 5-7, 6-1 contre la Roumaine Michaela Burzanescu pour se hisser au troisième tour de Roland-Garros, poussée à disputer un set décisif par la gauchère roumaine Serena Williams, dont les cris rageurs ont ponctué la partie, s'y est rapidement échappé 3-0 et s'est finalement imposé en un peu plus de 2 heures. Au prochain tour, un duel américain face à Danielle Collins attend la cadette des sœurs Williams. À 39 ans, l'Américaine dont les chaussures portent l'inscription « Je ne m'arrêterai jamais » est toujours en quête d'une 24e couronne en grand chelem qui lui permettrait d'égaler le record absolu de titres majeurs détenu par l'Australienne Margaret Court. Chez les messieurs, Stefanos Tsitsipas s'est montré solide et spectaculaire pour battre au deuxième tour Pedro Martinez 6-4, 6-4, 6-3. Au prochain tour, le Grec de 22 ans affrontera le gros serveur américain John Isner. Ce jeudi, Rafael Nadal affrontera Richard Gasquet en nocturne lors de la 5e journée, tandis que Novak Djokovic jouera face à Pablo Cuevas. Toujours ce jeudi, chez les dames, la tenante du titre Iga Swiatek jouera le dernier match de la journée sur le Simon Mathieu contre Rebecca Peterson.
Merci Yakuba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, polémique sur le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo à la date du 17 juin, comme annoncé par son parti. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a annoncé que cette date n'est pas consensuelle, estimant que le gouvernement n'a pas été consulté. Pour une réaction, Jean-Roger Bion a joint à Abidjan Frank Anderson Kouassi, l'un des porte-parole du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Il évoque une mauvaise communication de la part du gouvernement.
Le gouvernement n'a pas opposé une fin de non-recevoir. Ce n'est pas exact de dire les choses de cette façon. Monsieur Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, qui se trouve être le porte-parole du gouvernement, a répondu à la question d'un journaliste et il a laissé croire que la fixation de la date du 17 juin n'aurait pas été consensuelle. Ce qui est faux, elle est consensuelle. Je rappelle qu'un porte-parole n'est pas censé tout savoir. Donc, la fixation de la date, elle est consensuelle. Tout ce qui devait être fait ou être consensuel l'a été.
Pouvez-vous apporter des éléments pour prouver cette assertion?
Je dis tout ce qui devait être fait. Je sais que tout ce qui devait être fait pour que cette date soit fixée a été fait. C'est une date consensuelle.
La date du 17 juin est donc retenue une fois pour de bon.
Oui, mais c'est le président Gbagbo qui fixe la date. Il en informe qui de droit. Ça a été fait. Donc, il va donner le 17. C'est lui qui décide de quand il veut. Le président Ouattara a dit le 7 avril que Gbagbo pouvait rentrer quand il le souhaitait. Il a donc décidé de rentrer le 17. Il rentrait. Nous sommes en train de travailler dans le cadre des différentes commissions qui ont été mises sur pied et ça se passera très bien avec le concours de l'État de Côte d'Ivoire conformément à la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Les dispositions seront appliquées de concert avec le comité. Nous allons faire en sorte que l'accueil se passe très bien.
L'accueil sera-t-il populaire?
Ce n'est pas ça qui est le problème. Je vous dis que le président Laurent Gbagbo rentre le 17 juin, il sera accueilli dans les conditions de sécurité, dans les conditions d'apaisement. Ce n'est pas populaire ou catimini qui est l'enjeu. Quand le président Laurent Gbagbo va rentrer.
Vous pensez que ce qui a été dit était dans une mauvaise intention?
Je ne veux porter aucun jugement. Moi, je m'en tiens aux faits. C'est ce que je vous dis. Je ne porte aucun jugement.
Frank Anderson Kwasi, secrétaire général adjoint du FPI, en charge de la communication. Rappelons que le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan Bertin, a déclaré hier prendre acte de l'annonce par le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo du retour de ce dernier à Abidjan le 17 juin.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Amnesty International exhorte les autorités de la transition tchadienne à mettre en pratique leur promesse d'ouvrir une enquête sur l'usage d'armes à feu par les forces de sécurité lors des manifestations contre la prise du pouvoir par les militaires après la mort du président Idriss Déby Itno. Selon l'ONG, au moins 16 personnes ont été tuées à N'Djamena et à Moundou au sud, des dizaines d'autres blessées entre le 27 avril et le 19 mai. Yacouba Ouédraogo a joint à Bamako, au Mali, Abdoulaye Diarra, chercheur sur l'Afrique centrale à Amnesty International.
Il nous paraît important que ces annonces soient concrétisées. Donc c'est un appel qui est justement lancé aux autorités de la transition afin que dans ce nouveau chapitre qui s'annonce, l'impunité ne puisse plus régner dans ce cadre-là. Je rappelle que avant la mise en place de cette transition, il y avait eu par le passé plusieurs rassemblements qui également avaient fait sujet d'une certaine répression et au cours desquels des manifestants ont été blessés. Il y a également eu des incidents au domicile de M. Yatino, par exemple, et à chaque fois, des annonces d'enquête ont été faites. Cependant, nous avons du mal à situer exactement où se situe aujourd'hui l'état d'avancement de cette enquête. Donc, il s'agit de demander aux autorités de la transition qui ont déjà pris le futur, puisque un policier a déjà été rapié, mais que puisse y avoir des enquêtes, qu'elles soient impartiales, qu'elles soient transparentes, qu'il y ait des avancées sur ces enquêtes. On ne se contente pas justement de faire juste des annonces.
Justement, vous le disiez tout à l'heure, les autorités de la transition ont annoncé effectivement que le policier qui avait tué le jeune manifestant sur sa moto a été radié. Malgré cela, vous ne faites pas confiance en la justice tchadienne?
On a annoncé qu'il a été radié. Cependant, des annonces de poursuite n'ont pas été faites à son encontre. Or, la radiation n'est pas une décision judiciaire. Justement, lorsqu'il y a eu homicide immédiat dans Bifo, qui est une enquête judiciaire qui sera faite sur l'ensemble des incidents qui se sont déroulés durant cette période et que les autorités judiciaires se saisissent justement de l'ensemble des plaintes qui sont avancées par les familles, par les proches des victimes. Et donc, ce n'est pas dire qu'on ne fait pas confiance, c'est rappeler qu'il est essentiel justement de mettre fin à un cycle d'impunité et que des sanctions doivent être prises lorsqu'il y a un usage excessif de la force qui conduit à des personnes qui sont tuées, à des personnes qui sont blessées, dont certaines le sont encore aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez véritablement que les autorités de la transition vont accepter d'engager des poursuites dans une affaire qui pourrait les toucher éventuellement?
La justice justice est une valeur cardinale. Les autorités de la transition entendent justement reformer et refonder, donc il est essentiel que cela se fasse sur la justice. Et le fait qu'ils aient annoncé justement l'ouverture d'une enquête, alors ils doivent continuer et poursuivre jusqu'au bout pour que des responsables, parce que les individus qui sont responsables, puissent être justement jugés. Si cela n'est pas fait, voyez-vous, cela peut avoir des conséquences sur l'ensemble des forces qui sont engagées dans le maintien de l'ordre et donc avoir des conséquences négatives. C'est pour cela qu'il est important que les responsabilités soient situées dans ces affaires-là. Je peux affirmer qu'il y a vraiment une soif de justice dans le pays, une soif de justice qui n'est pas née des dernières manifestations, mais qui est là depuis de nombreuses années. Et donc, si une ouverture peut contribuer à mettre fin à ce cycle d'impunité, à répondre à cette soif de justice des populations, alors ce sera une avancée palpable pour le Tchad et pour le Tchadien.
Abdoulaye Diarra, chercheur sur l'Afrique centrale à Amnesty International, joint à Bamako.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Cameroun, les autorités disent expulser plus de 1000 mineurs illégaux à la frontière avec la République centrafricaine après la mort de 27 personnes dans une mine d'or en raison de glissements de terrain. Parmi les expulsés, il y a au moins 400 centrafricains et des Sénégalais au village de Kambélé. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka, le récit est de Rosine Mounezero.
Au moins 300 mineurs illégaux ont été forcés par la police et l'armée camerounaise de s'asseoir par terre au marché de Kambélé mardi soir. Parmi eux, des Camerounais, centrafricains et des Sénégalais. Alfred Kamoun, 31 ans, père de deux enfants, est originaire de la République centrafricaine voisine. Il dit avoir été forcé de quitter le site minier appelé Boukarou dans le village de Kambélé.
J'ai au moins 7 grammes ici. 7 grammes, on tape sur 25 000. On a travaillé la nuit avec mes deux petits frères et on a eu ça.
Kambélé est un village de Batouri à environ 700 km de la Centrafrique. Lundi, les autorités de Batouri ont annoncé que 27 mineurs illégaux sont morts le mois dernier dans le village de Kambélé. Oberlin Bélessa, maire de Batouri, a déclaré qu'une réunion de crise d'urgence a recommandé l'expulsion d'au moins un millier de civils de la zone minière à risque.
Il y a comme une ruée vers l'or de l'ensemble des populations. Certaines de ces populations viennent des zones éloignées. Quand il y a des morts, on ne peut pas être indifférent. S'il y a d'autres victimes, peut-être que les fouilles progressives qui sont menées pourront les révéler.
Le Cameroun dit avoir déployé des secouristes, des militaires et la police à Kambélé pour expulser de la zone des mineurs illégaux et s'assurer que les étrangers obtiennent un permis de résidence et d'exploitation ou qu'ils soient déportés. L'armée interdit aux mineurs de visiter les zones à risque où les puits creusés pour rechercher de l'or finissent par s'effondrer. Bababel, chef traditionnel de Kambélé, affirme que certains chercheurs d'or se sont peut-être noyés dans des tranchées inondées après des fortes pluies.
Les gens viennent sans l'autorisation de pouvoir travailler sur le site. Ils viennent sous forme des voleurs et quittent de loin. D'autres de Colomine, de Yokadouma, partout, ils viennent causer le désordre. On les repousse souvent dans la journée, mais quand la nuit arrive, ils descendent dans le trou. Ça n'est pas contrôlé, c'est là où il y a toujours le cas des morts.
Hilaire Kembe est un chercheur d'or illégal au village de Kambélé. Selon lui, il est impossible de connaître le nombre exact de morts ou de blessés le mois dernier à Kambélé.
On va faire comment pour savoir le nombre de corps qui restent dans le trou. Surtout les voleurs, ceux qui viennent dans la nuit, l'accident les trouve. Toi, tu dors à la maison, tu vas faire comment pour connaître que la terre a pris quelqu'un. C'est à la fin, le moment que le Chinois libère le trou aux populations. Quand la personne vient pour creuser, pour il trouve le corps dans le trou, il dit, mais voici le corps. Il monte, il prend sa route, il part pour aller se laver, et il revient, il reste tranquille.
Le Cameroun affirme que certains des mineurs illégaux sont des personnes déplacées qui ont fui le conflit en Centrafrique et le groupe terroriste de Boko Haram, ou fuyant les combattants séparatistes anglophones de l'ouest du pays. Le gouvernement a toujours interdit aux personnes non autorisées de creuser dans la zone, mais de nombreux jeunes ignorent cet ordre parce qu'ils sont au chômage.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine. La nouvelle crise politique au Mali après le deuxième coup d'État en 9 mois, orchestré par le colonel Assimi Goïta, qui occupe désormais le poste de président de la transition. La CEDEAO, qui a imposé des sanctions diplomatiques et non économiques, exige toujours des élections pour février 2022. Pendant ce temps, la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Les militaires pourront-ils mener la transition à son terme et organiser des élections crédibles et transparentes? Quelles conséquences sécuritaires ou l'instabilité politique à Bamako pour le Mali et la région? Nous discuterons de tout cela ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
L'Égypte a donné de la voix mardi après que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé qu'il prévoyait de construire 100 barrages de petite et moyenne taille au cours de l'année à venir. Il n'y a toujours pas de solution sur le remplissage du grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu qui crée de sérieuses frictions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Édouard Iranian fait le point pour la VOA depuis le Caire. Le récit est de Lionel Gahima.
Les médias égyptiens diffusent en boucle la réaction de colère du porte-parole du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Hafez. Ce dernier critique vivement la déclaration du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur la construction de 100 nouveaux barrages de petite et moyenne taille dans divers états de son pays au cours de l'année prochaine. L'Égypte estime que ce plan est signe de mauvaise intention de l'Éthiopie concernant le remplissage du grand barrage de la Renaissance qui a provoqué un casus belli avec l'Égypte et le Soudan. Hafez Ahmed ajoute que l'Éthiopie doit coordonner de tels plans avec ses voisins avant de provoquer des dégâts. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi s'est rendu à Djibouti la semaine dernière, insistant lors d'une conférence de presse qu'il espérait toujours une solution négociée avec l'Éthiopie concernant le remplissage de ce barrage.
J'ai discuté de la situation du barrage de la Renaissance qui affecte les intérêts de toute la région et de la nécessité d'un accord juste et équilibré sur le remplissage et l'exploitation de ce barrage dès que possible. Et le refus de l'Éthiopie qui veut imposer son propre plan ne répond pas aux intérêts ou aux droits des pays dont les intérêts sont menacés.
Le sociologue égyptien Saïd Sadek estime que la deuxième phase du remplissage du barrage à partir de juillet alimente la colère égyptienne.
L'opinion publique est très en colère et pousse le gouvernement à réagir à la provocation des Éthiopiens qui parlent toujours de manière très provocatrice contre le peuple et le gouvernement égyptien.
Les forces d'opposition égyptiennes, basées principalement à l'étranger, en rajoutent, elles appellent à des manifestations contre ce qu'elles qualifient de mauvaise gestion de la crise par le gouvernement. Les médiateurs comme l'Union européenne, les États-Unis et l'Union africaine n'ont pas encore réussi à trouver une solution à cette crise. Paul Sullivan, professeur à l'Université de la Défense nationale à Washington, estime que le grand barrage de la Renaissance avait déjà enflammé les relations, mais la construction des 100 autres barrages est maintenant perçue comme une nouvelle agression. Selon lui, l'Égypte va réagir. Et si l'Éthiopie veut la paix, elle donne des indications du contraire. L'armée égyptienne a mené récemment des manœuvres avec un certain nombre de pays de la région, dont le Soudan, pour montrer qu'elle est prête en cas de conflit ouvert. Et personne ne veut vraiment une guerre pour le partage des eaux du Nil.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.